France Musique. Les grands entretiens, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonsoir, mon nom est Elisabeth Leonska, je suis pianiste russe. Je crois que c'est tout.
Elisabeth Leonskaya, vous nous avez raconté vos magnifiques rencontres lors de votre jeunesse en URSS. Kagan, Shostakovich, Richter. Et puis, en 1978, vous décidez de partir. Est-ce que vous abandonniez une belle carrière en partant, ou est-ce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ambiance antisémite faisait que vous n'auriez peut-être pas pu faire la carrière que vous vouliez en URSS?
Я бы сказала, что 70-е годы это вообще был знак иммиграции.
Je pense, je dirais que les années 70 en général étaient un signe pour beaucoup de gens qu'il fallait partir. Une énorme vague de personnes avait quitté le pays. Pendant cette période, moi, je n'avais pas le droit de faire même de courts séjours à l'étranger. Je n'avais pas de famille, mes parents étaient décédés, donc rien ne me retenait. Je pensais que je suis comme une petite embarcation dans un océan. Et donc je ne partais pas vers quelque part, je partais de quelque part.
Дорога шла, так сказать, у меня было приглашение из Израиля. Дорога
donc
туда
j'avais
шла через Вену.
Une invitation pour me rendre en Israël. Et, mais pour émigrer, je devais passer par Vienne en transit. Mais comme c'est une ville que je connaissais déjà, j'y avais joué, j'ai décidé d'y rester. Et c'est une histoire intéressante aussi, il y a une anecdote. Mon visa de départ, je l'ai obtenu 8 jours avant mon concert à Vienne, qui était déjà prévu. Donc en arrivant à Vienne, de l'aéroport, je me suis rendu à la répétition avec l'orchestre pour jouer le concert quelques jours plus tard. Mais c'est une coïncidence tout simplement.
Elisabeth Leonskaya, vous arrivez à Vienne, je crois qu'à l'époque vous avez 33 ans en 78. Mais vous êtes seule, vous arrivez dans une ville toute seule que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez souffert de cette solitude? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que c'est la musique qui vous a tenue? Comment avez-vous fait?
Oui, c'était difficile. Donc, une chose difficile, c'est que je coupais les ponts avec ma vie précédente à Moscou. Une fois le contrôle des frontières à l'aéroport passé, la porte serait fermée, le rideau de fer retombait. Et personne ne pouvait savoir, à l'époque, personne ne pouvait prédire que la vie en Russie allait peut-être changer. En arrivant, ce qui était difficile, c'est rien que les habitudes du quotidien. Toutes les choses sont très différentes. Et encore pour moi, je n'étais pas dans la situation la plus difficile parmi les émigrés, parce que je donnais des concerts, donc j'avais les moyens pour vivre, mais se réhabituer à la vie dans un autre pays avait demandé un certain effort. Mais moi, je n'ai jamais regretté ma décision de partir. Et puis, d'un autre côté, il y a toute cette curiosité qui, finalement, nous aide à traverser ces moments difficiles, puisque je découvrais aussi quelque chose de nouveau.
Je crois que lors de vos premiers concerts à Vienne, des critiques ont dit que votre interprétation de Mozart et de Beethoven était extrêmement russe. Comment le prenez-vous ?
Vous savez, il peut y avoir deux réponses à cette question. D'un côté, cela est probablement vrai. D'un autre côté, selon la personne qui écrit, Cela peut aussi ne rien signifier. On peut, pareil, de la même manière, accuser un pianiste allemand de jouer Rachmaninov ou Tchaïkovski de manière trop allemande. Donc cela dépend vraiment de l'auteur de l'article et des arguments qu'il soulève. Mais certainement, il y a une part de vérité à cela.
Qui serait liée à la langue russe?
Несомненно, конечно, это связано с языком, с
интонациями ne fait que du théâtre contemporain et vous le mettez jouer du Shakespeare, le même problème va apparaître, une question de différence de style.
Est-ce que vous avez la sensation que Vienne a changé votre piano? Le fait de vivre à Vienne, est-ce que cela a changé votre pianisme?
Oui,
certainement. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de s'assimiler dans un nouveau pays. Cela concerne aussi bien le quotidien que le travail. Qui était pour moi jouer de l'instrument et interpréter la musique. C'était un travail difficile et je pense que tout musicien qui est à Vienne et qui respire l'air de Vienne, il va avec le temps changer son attitude vis-à-vis de la musique qui avait été composée dans ce pays, dans cette culture. Ce n'est pas que j'aurais sursauté un moment en me disant « Ah, j'adore Schubert et je vais maintenant enregistrer ses œuvres ». Non, c'était beaucoup plus progressif. Je connaissais de mieux en mieux, je jouais des différentes œuvres et avec le temps, j'ai donc constitué un répertoire assez vaste d'œuvres de Schubert.
Oh oui, vaste, peut-être bien complet, ça me paraît probable.
Oui, pour Schubert, oui.
Mais
j'ai beaucoup travaillé Mozart à cette époque. Ce qui a ses propres particularités. Ce qui a ses difficultés aussi.
Bien sûr. Mais à propos de Schubert, vous publiez pas moins de 5 disques entre 88 et 89. Moi, j'ai l'impression que vous étiez affamé de Schubert.
Non, ce n'était pas le cas.
Habitez-vous à Vienne, Elisabeth Lunskaya?
J'étais
à Vienne, j'ai loué un appartement pendant 6 mois. Et puis ensuite, j'ai trouvé l'appartement que j'occupe toujours aujourd'hui. Et je dis, c'est mon seul et dernier appartement à Vienne. C'est pas loin du Belvédère. À gauche, j'ai le Belvédère. Si je regarde par la fenêtre, en face, j'ai le Stephansdom. Et à droite, l'église russe.
Et ce paysage compte beaucoup dans votre vie?
Pas forcément, mais quand j'ai vu, je me suis dit que je vais y rester à cet endroit.
Je suis chez moi, c'est ça que vous vous êtes dit?
Da.
Alors, je suis désolée, je reviens à Schubert, bien que vous me disiez non à toutes mes questions, j'insiste peut-être un peu lourdement. Mais tout de même, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez enregistré les sonates de Schubert, vous les avez faites toutes, je crois qu'il y en a 19. Vous les avez jouées toutes en 9 jours. Je connais bien peu de pianistes capables de faire cela. Est-ce que c'était un défi?
Нет, это не было. Во-первых, я хочу сказать, что, по-моему, самое важное.
Non, ce n'était pas un défi. Et puis, l'important, ce n'est pas le quoi, mais le comment. Et effectivement, je ne me suis donné aucun défi. Et d'ailleurs, ce n'est pas que je me suis assise et j'ai joué toutes les sonates sans préparation. J'en avais déjà joué, j'avais déjà fait des cycles de Schubert. Donc, c'est une idée sur laquelle je travaillais depuis longtemps.
Это большой процесс работы. И за 9 дней,
это
было в Токио пару лет назад.
Это результат. Это результат. À Tokyo, il y a quelques années, et j'avais déjà joué ce cycle, je dois admettre que c'était quelque chose de très difficile, physiquement, émotionnellement, parce que Schubert, malgré le fait que c'est un classique, un grand classique, il essaye d'élargir le champ de l'harmonie, d'enrichir l'harmonie sans créer une nouvelle forme. Et toute harmonie est aussi une émotion, et pour suivre cela, il faut toujours sentir, poursuivre quelque chose de nouveau. Pour ne pas rater cela quand on se prépare à jouer une œuvre. Quand nous faisons cet exploit, et parce que c'en est un, on doit quand même remporter une victoire contre soi-même. Oui, toute musique est jolie, mais pour essayer de manière aussi respectueuse que possible de transmettre cela, respectueuse vis-à-vis de l'auteur, je veux dire. Par exemple, il y a une chose que je dis souvent, mais je m'en suis souvenu maintenant, Neuhaus a dit beaucoup de fois une phrase remarquable. Il disait, ne te cherche pas toi-même dans la musique, mais au contraire, cherche la musique au fond de toi. Et donc, cela donne un résultat.
France Musique, les grands entretiens d'Elisabeth Leonskaya.
Revenons sur la dernière, sonate, la 960 de Schubert. Je crois que la version la plus célébrissime au monde, Dieu sait s'il y en a, c'est tout de même celle de Richter, qui était connue pour respecter à la lettre la partition. Mais tout de même, quand il commence, le tempo est si lent que je ne suis pas sûre que ce soit écrit à ce tempo-là, mais c'est tellement fort, tellement inouï comme sensation, que pour vous qui l'avez si bien connu, qui devez connaître cette version au-delà de par cœur, est-ce que cela ne vous a pas influencé pour l'interpréter?
Oui, bien sûr que cela m'a influencé, mais ce n'est pas la question principale. La chose, c'est qu'effectivement, Richter a respecté le texte vraiment de manière très précise. Il me disait, regardez, c'est marqué molto moderato, pas allegro moderato. Ce qui nous impose un tempo complètement différent. Et ce n'est pas que la musique, c'est un mouvement presque imperceptible des huitièmes. Ceux qui vont commencer à jouer ce morceau vont penser qu'il veut quelque chose de plus rapide, mais cette voix du milieu, c'est elle qui donne ce mouvement presque imperceptible, et c'est ça qui donne ce caractère molto moderato.
De ces extrêmes nuances que j'entends dans votre façon d'interpréter Schubert. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est à quel point vous jouez du contraste entre la mélancolie et la rage chez Schubert. Et malgré cela, ce qui me frappe, c'est à quel point vous créez sur certaines notes des sons qui sont éclatants. Tout d'un coup, c'est comme si une énorme goutte de pluie de joie nous tombait dessus dans cet univers évidemment sombre.
Vous savez, ce n'est pas un objectif que je m'impose de choisir des moments de rage ou de joie ou d'agressivité. Moi, j'essaie de suivre le texte. Je pense que vous parlez de la dernière partie de la sonate en si bémol majeur. Je pense deviner de l'endroit duquel vous parlez. Et c'est un moment où on a vraiment l'impression que d'entendre crier l'âme de Schubert. Et donc c'est si bémol mineur, fortissimement. Ai-je le choix de faire autrement? Soit est-ce que je dois faire juste un joli jeu comme une fille de bonne famille? Ou
vous savez,
beaucoup de compositeurs disaient que la musique qu'ils écrivent était un cri de leur âme qui laissait sortir.
Alors on en finirait avec Schubert par le chant peut-être. Quand vous jouez, j'ai l'impression que vous veillez sur les chanteurs.
Oui. Je dois dire d'abord que les accompagner, ce n'était pas une idée qui venait de moi. Je ne pense pas que c'est quelque chose pour laquelle je suis faite. C'est un travail très particulier et un musicien qui sait bien accompagner le chant, il faut vraiment en prendre soin. Mais j'ai été invité par Gurné, par Lipovšek, aussi Gundula Janowitz, avec qui nous n'avons pas enregistré de disque. Et ensuite, il y avait Brigitte Fassbender, avec qui nous avons enregistré un disque.
Je voudrais aborder le thème de la musique de chambre.
Oui, j'aime beaucoup la musique de chambre.
Comment est-ce que cela a commencé dans votre jeunesse? Vous avez fait beaucoup de musique de chambre avec vos amis? C'est une pratique de tout temps pour vous?
Oui,
certainement, quand j'étais étudiante au conservatoire, nous avions des musiques de chambre, c'était une discipline obligatoire. J'ai beaucoup joué avec Ole Kagan, j'ai joué beaucoup de Mozart, Beethoven, de Brahms, avec Kagan et d'autres. C'est une expérience que j'avais gardée avec moi. Et à Vienne, Heinrich Schiff était un de mes partenaires de jeu préféré, qui est maintenant malheureusement décédé.
Merveilleux violoncelliste.
Il était difficile. Il était très exigeant. Il pouvait s'énerver et arrêter une répétition, mais c'était un musicien très talentueux. Il avait vraiment un cœur brûlant.
Mais quelle rencontre ! Peut-on faire plus pianiste russe que vous ? Peut-on faire violoncelliste plus autrichien que lui ?
C'est vrai. Et en ce qui concerne son caractère, cela est vrai également. Il a un caractère très autrichien.
Alors, parmi les quatuors avec lesquels vous avez travaillé, il y avait bien sûr Alban Berg. Là aussi, on est dans un univers si viennois. Malheureusement, ce quatuor n'existe plus. Mais comment s'est passée la rencontre avec Alban Berg, enfin le quatuor Alban Berg?
D'abord, le quatuor Alban Berg, c'était un quatuor absolument unique, puisque c'était une époque où cela ne faisait que commencer.
Существование в одном пульсе музыкальном.
Vivre la musique avec eux, c'était très spécial. Il fallait se forcer à changer. Quand tu joues tout seul, tu es libre, un petit peu comme un fou. Mais quand tu joues dans un ensemble,
un
quatuor, c'est déjà un orchestre en miniature. Il faut se retenir. Retenir, contrôler le temps, respecter les formes, cela oblige le musicien à une sérieuse discipline. Donc ensuite, le quatuor Borodin m'avait invité, c'était le deuxième. C'était un quatuor complètement différent pour qui le poids de chaque note, de chaque signe est tellement important, où le respect de cela atteint un tel niveau qu'en jouant, tu ne remarques pas les notes. C'est comme on dit que la lumière ou l'air bouge et ne bouge pas en même temps. Et c'était la sensation que j'avais avec eux. Il y avait les notes, mais je ne les sentais pas. C'était très intéressant, très important, mais aussi difficile. Il fallait se serrer dans la part du son qui était réservée, respecter le mètre, les dynamiques, et être tous ensemble comme un seul organisme du point de vue musical.
Mais le quatuor Borodin a appris les œuvres avec Shostakovich lui-même, non ?
Oui, ils ont joué avec Shostakovich et aussi avec Richter. C'est vraiment un quatuor unique en ce qui concerne son style.
L'Allegro con brio du trio numéro 2 en mi mineur opus 67 de Shostakovich, interprété par les membres du quatuor Borodin et Elisabeth Leonskaya. Rendez-vous demain, même heure, pour notre dernière rencontre avec Elisabeth Lanskaya. Cette émission a été réalisée par Christine Amado, prise de son Hélène Langlois, mixage Claude Nior, attaché de production Flora Sternadel. Et vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster cette émission sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.